Voici un enseignement donné dans le cadre de l'église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Et nous allons passer à la lecture des textes sur lesquels reposeront la prédication. Donc le premier texte se trouve dans le livre d'Exode, deuxième livre depuis le début, au chapitre 12, les versets 1 à 14. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute la communauté d'Israël et dites, « Le 10 de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau par maison. » Si la famille est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son voisin le plus proche de la maison, selon le nombre des personnes. Vous répartirez cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous l'aurez en garde jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'immolera les deux soirs. On prendra de son sang et l'on en mettra sur les poteaux, et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, on la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez pas à demi-cuit, ni bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, la tête avec les pattes et les entrailles. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Voici comment vous le mangerez, une ceinture à vos reins, vos sandales aux pieds, et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je parcourrai le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez, et je verrai le sang et je passerai au-dessus de vous, et il n'y aura pas sur vous le fléau destructeur, quand je frapperai le pays d'Égypte. Puis la deuxième lecture, on va dans le Nouveau Testament, Hébreux chapitre 10, versets 1 à 10. La loi en effet possède du nombre des biens à venir et non pas l'exacte représentation des réalités. C'est pourquoi elle ne peut jamais, par les sacrifices toujours identiques qu'on présente, perpétuellement chaque année, amener à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu. Sinon, n'aurait-on pas cessé d'en présenter puisque ceux qui rendent ce culte auraient été purifiés une fois pour toutes et n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais par ces sacrifices, on rappelle chaque année le souvenir des péchés. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi en entrant dans le monde, le Christ dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit « Voici, je viens ». Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet « Pour faire, ô Dieu, ta volonté ». Il dit d'abord « Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui cependant sont offerts selon la loi. » Puis il dit « Voici, je viens pour faire ta volonté ». Il abolit donc le premier culte pour en établir un second. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes.
C'est vrai qu'on aime commencer le dimanche de Pâques en disant « Il est ressuscité !» Il est vraiment ressuscité. Amen. Joyeuse Pâques à chacun. C'est vrai que lorsque nous ouvrons la Bible et que nous parlons des choses de Dieu, nous sommes conscients que nous sommes dans l'incapacité de comprendre sans l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi à chaque fois que nous tournons vers la parole de Dieu, nous comptons sur l'œuvre du Saint-Esprit pour comprendre sa parole. Alors en ce jour de fête annuel de la Pâque, nous allons bien sûr parler de la résurrection de Jésus-Christ. Mais nous allons aussi parler de la Pâque qui est une fête qui plonge ses racines avant la venue de Jésus-Christ. Tout ce qui nous est présenté dans l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, est comme des ombres de ce qui allait arriver. Et tout ce qui nous est présenté dans le Nouveau Testament, la deuxième partie de la Bible, en fait, met en lumière ce qui faisait de l'ombre, qui faisait l'ombre dans l'Ancien Testament. Nous allons donc réfléchir à cette ombre et à cette mise en lumière ce matin. Voilà pourquoi j'ai intitulé cette prédication « De l'ombre à la lumière » ou « De la Pâque de l'Ancien Testament à la Pâque du Nouveau Testament ». J'aurais aussi pu dire « De la Pâque annonçant la venue de Christ à la Pâque commémorant la venue de Christ ». Parfois, nous parlons de Pâques juive et de Pâques chrétienne, comme si c'était deux fêtes complètement séparées, n'ayant rien de commun. Alors, afin d'éviter de parler des éléments religieux qui ont été ajoutés, je préfère ce matin vous parler de la Pâque de l'Ancien Testament et de la Pâque du Nouveau Testament, car nous verrons que Jésus-Christ réunit ces deux fêtes. Celui qui fête la Pâque en ne pensant qu'à la résurrection de Jésus-Christ oublie que Dieu a préparé ces événements bien avant, depuis avant la création du monde. Et il l'a indiqué dès la chute et la mise en scène dans un peuple choisi. Celui qui fête la Pâque en ne pensant qu'à la sortie d'Égypte reste dans l'admiration du nombre et pas de la réalité qui est venue, qui est apparue. Voilà pourquoi ce matin j'aimerais nous faire réfléchir à ce qu'est une ombre. C'est quoi une ombre ? Et nous parlerons de certains aspects de l'ombre de la Pâque de l'Ancien Testament pour arriver ensuite à ce que la lumière nous révèle dans la réalité qui nous amène à la Pâque du Nouveau Testament. Donc ce sont nos trois points. Le premier point, ça sera qu'est-ce qu'une ombre, simplement. Deuxième point, l'ombre de la Pâque de l'Ancien Testament. Et troisième point, la lumière de la Pâque du Nouveau Testament. Alors commençons par qu'est-ce qu'une ombre ? Alors, je fais des liens déjà, la Pâque juive est une ombre, une illustration, un type qui annonçait quelque chose de plus grand. Là, je vais dire quelque chose qui est une affirmation, je ne peux pas vous l'expliquer maintenant, il faut la prendre telle qu'elle. C'est que toute la Bible est centrée sur Jésus-Christ. Toute la Bible. Toute la Bible. Ça, c'est un élément important à avoir en tête. Et l'ombre, vous avez déjà vu l'ombre, lorsqu'elle est projetée sur un cadran solaire avec une tige qui fait de l'ombre, sur les traits du sol ou bien du mur, elle indique l'heure. Mais pour que cela soit possible, il faut savoir quelle heure il est en réalité lorsqu'on trace les traits. Il faut une référence. Eh bien, pour lire l'heure de l'Ancien Testament, la référence est le Nouveau Testament. L'Ancien Testament révèle progressivement l'histoire de la rédemption. L'histoire de la rédemption, c'est simplement l'œuvre de Dieu pour sauver son peuple. Et toute l'histoire véridique et historique du peuple choisi par Dieu dans l'Ancien Testament est une typologie, ce que l'Épître aux Hébreux appelle l'ombre des choses à venir. On a lu avant dans Hébreux 10, verset 1, il est dit « La loi en effet possède une ombre des biens à venir et non pas l'exacte représentation des réalités. C'est pourquoi elle ne peut jamais, par les sacrifices toujours identiques qu'on présente perpétuellement chaque année, amener à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu. » Une ombre n'est pas capable de montrer tous les détails de l'objet réel, mais en donne les contours. Voilà pourquoi parfois la réalité qui donne cette ombre peut parfois surprendre. On a vu une ombre et tout à coup c'est tout à fait différent. J'ai vu des photos très intéressantes où on voit l'ombre, c'est comme un gorille. Puis regarde la réalité, c'est deux personnes qui sont bras dessus, bras dessous. Voilà. On peut être surpris parfois, c'est vrai. Alors réfléchissons justement aux caractéristiques du nombre. Alors pour les enfants qui ont pris le document pour suivre, il y a des petites images aussi qui permettent de comprendre cela. Donc une ombre est formée lorsqu'il y a de la lumière et un objet opaque qui ne laisse pas passer de la lumière et une surface sur laquelle la lumière est projetée. Et là on a une ombre. Okay? Par exemple, lorsqu'il y a du soleil qui est la source de la lumière, votre corps qui est opaque, en fait, produit une ombre sur le sol. La grandeur de l'ombre dépendra de l'angle de la lumière. Le matin ou le soir, si vous voulez être grand dans votre ombre, il faut aller le matin. Là, vous êtes très grand. Et si vous voulez être petit avec votre ombre, il faut aller à midi. Là, vous êtes tout petit parce que le soleil est en dessus. Donc là, perspective. Un ombre ne permet de voir la perspective. Même deux personnes de même grandeur, mises à des distances différentes de la source lumineuse, peuvent être vues de grandeurs différentes dans l'ombre. La force de l'ombre aussi est liée à la force de la lumière, qui est lié à sa proximité. Si la lumière est tout près, l'ombre sera très forte. Si la lumière est très loin, enfin, bon, le soleil est très fort. Hein. Mais si vous faites une lampe de poche qui va à 10 mètres, il n'y a presque pas d'ombre. Si vous êtes tout près, il y a beaucoup plus d'ombre. L'ombre, d'ailleurs, de la lune est aussi possible. Vous avez déjà vu, quand il y a la pleine lune, il y a aussi de l'ombre. Mais ce n'est pas aussi fort qu'avec le soleil. La netteté de l'ombre est liée à la surface sur laquelle elle est projetée. Nous n'avons pas la même ombre sur l'eau que sur la haute herbe, que sur le goudron. Et c'est vrai que, par contre, si c'est très lisse et que vous avez une bonne source de lumière, vous pouvez voir des contours. Et vous pouvez même faire, vous mettez un projecteur ou une grande lumière, vous mettez quelqu'un, votre copain par exemple, et vous allez dessiner son contour sur une feuille blanche. Et là, on peut être assez précis. Vous avez déjà vu une ombre, elle est toujours plate. Elle est toujours plate, une ombre. Elle n'arrive pas à donner les trois dimensions. Elle n'a que deux dimensions. Elle ne peut pas donner la profondeur de l'objet. Cela signifie que nous voyons que partiellement lorsque nous voyons l'ombre. La forme de l'ombre dépendra aussi de la hauteur, de l'angle d'éclairage. Les droites peuvent parfois devenir un peu plus courbes. Parfois, nous voyons qu'une tache est un cercle si le soleil est très haut de l'horizon. Et nous voyons une longue perche lorsque le soleil est très bas dans l'horizon. Tant c'est la même chose. Bon, je m'arrête là hein, pour la physique, parce que je ne vais pas aller faire un cours de physique aujourd'hui. Mais toutes ces informations devraient nous aider à comprendre que lire une ombre n'est pas toujours facile. Et sa netteté, sa forme, sa force, etc. dépendent de l'éclairage, de la surface sur laquelle l'ombre est projetée. Il y a toutes sortes d'ombres surprenantes. Par exemple, vous pouvez prendre votre alliance ou bien un rouleau de scotch que vous mettez sur un livre comme ceci. Et puis ensuite, vous éclairez depuis devant et vous verrez apparaître non pas un rond, mais un cœur. L'ombre sera un cœur. Très étonnant. Or là, en plus, c'est sympa parce que c'est un beau symbole. C'est une alliance sur la Bible avec un cœur qui parle de l'amour. Et un dernier exemple, c'est un petit bricolage que je voulais faire, mais j'ai pas réussi parce que le temps m'a manqué. Mais j'ai fait un plan sur les petits papiers, donc ceux qui comprennent le plan pourront essayer de le faire. Et c'est en fait, avec des allumettes, ça va très bien, avec des Lego aussi, peut-être ça irait encore mieux. Et en fait, c'est un petit bricolage qu'on peut faire. Si on éclaire d'un côté, vous verrez apparaître sur le mur le mot « mort ». Si vous l'éclairez de l'autre côté, vous verrez apparaître sur le mur le mot « Pâques ». Et si vous l'éclairez depuis dessus, puis qu'on verrait l'ombre dessous, bien si on regarde dessus, vous voyez le mot « Jésus ». En fait, ce qui est écrit dans l'Ancien Testament permet de nous voir, uniquement horizontalement. Et le Nouveau Testament nous permet de voir verticalement. Donc si une fois vous faites ce petit bricolage, vous me le montrerez, ça m'intéresse. Puis je vous montrerai le mien si j'y arrive une fois à le faire. Quel contour alors la Pâque de l'Ancien Testament peut-elle montrer de la Pâque du Nouveau Testament? C'est le sujet donc de notre prochain point, maintenant que nous sommes bien au point avec ces ombres. Avant de nous y lancer, j'aimerais encore introduire quelque chose qui peut nous perturber, mais qui est essentiel dans la compréhension de la Bible. Pour les enfants, c'est un peu compliqué, mais vous allez par la suite aussi comprendre. Pour les adultes, c'est vraiment important à comprendre, mais un peu déroutant. Les ombres de l'Ancien Testament sont des récits de personnes réelles, des choses qu'on peut toucher, qu'on peut voir avec nos yeux physiques, un peuple qui sort d'Égypte, etc. Les réalités, ça c'est les ombres, et les réalités du Nouveau Testament sont premièrement spirituelles. Ça peut être un peu perturbant parfois. Parce qu'on se dit, attends, mais la réalité, c'est ce qu'on peut toucher, et puis l'ombre, c'est... Ben non. L'ombre, c'est des choses réelles et physiques, une histoire d'Israël dans l'Ancien Testament, et la réalité qui fait cette ombre dans l'Ancien Testament, ce sont des réalités spirituelles. L'ombre que nous voyons dans l'Ancien Testament est le résultat d'un éclairage d'une réalité spirituelle expliquée dans le Nouveau Testament. Donc l'ombre, et là je répète, quand je répète deux fois généralement, c'est qu'il y a des mots à mettre dans le petit papier. Plusieurs le savent. L'ombre que nous voyons dans l'Ancien Testament est le résultat d'un éclairage d'une réalité spirituelle expliquée dans le Nouveau Testament. La Bible est une révélation de Dieu, une révélation progressive, petit à petit, et elle va toujours vers le spirituel. Vous avez un peuple physique dans l'Ancien Testament qui est l'ombre, en fait, d'un peuple spirituel que le Nouveau Testament nous décrit, par exemple. Et il en est de même pour l'ombre de la Pâque de l'Ancien Testament. Regardons donc maintenant l'ombre dans le point suivant et la réalité qui donne cette ombre viendra au point suivant. Donc l'ombre de la Pâque dans l'Ancien Testament, deuxième point. Selon l'éclairage, comme nous l'avons vu dans le premier point, nous pouvons voir des ombres différentes ou différentes parties d'un objet. Nous allons voir trois angles différents. Il y en aurait beaucoup plus, mais voilà, je ne vais pas abuser aujourd'hui. Trois angles. Le premier, c'est le contour de l'esclavage qui a mené à la Pâque. On va voir le contour de l'esclavage qui a mené à la Pâque. Deuxièmement, on va voir l'ombre de l'agneau, qui est la figure centrale de la Pâque de l'Ancien Testament. Et troisièmement, nous verrons la forme de la libération d'un peuple, qui est le résultat de la Pâque de l'Ancien Testament. Alors, on va reprendre dans ces trois éléments. Alors, je ne vais pas vous relire maintenant toute l'histoire de Pâque dans l'Ancien Testament, c'est 14 chapitres dans Exode. je pense que vous êtes d'accord qu'on ne va pas le lire maintenant. On a lu quelques morceaux tout à l'heure. Marc nous l'a lu dans Exode. Donc on va voir premièrement les contours de l'esclavage. Dans cette ombre se dessinent plusieurs contours qui nous permettent de voir une situation sans espoir. Une situation sans espoir. Le gouvernement égyptien ne laisse aucun espoir aux esclaves. Et même depuis des années, cherche à tuer tous les garçons à leur naissance. Moïse a été sauvé de ce massacre il y a 40 ans et ça ne s'est pas amélioré depuis. L'ombre montre, si on regarde l'ombre de l'esclavage, qu'il n'y a pas d'espoir. Deuxième élément, cette ombre nous montre aucune liberté. Les gens sont submergés. Le fardeau est tel que le peuple esclave ne pense pas à autre chose. Il rentre le soir fatigué, ne pense qu'à se nourrir, se reposer pour recommencer le lendemain. L'ombre nous montre aucune liberté, totalement submergée. Troisièmement, cette ombre nous montre que l'esclavage est sous un oppresseur sanguinaire qui ne veut pas le bien de ce peuple, mais profite de ce peuple. Si les esclaves se plaignent, eh bien elle devient encore plus dure. L'ombre nous montre l'opposition maléfique. Je vais m'arrêter là. Dans ces contours de l'esclavage, vous pouvez en trouver beaucoup plus. C'est vrai, quand on commence à observer une ombre, on commence à voir des contours. Et quand on voit des contours, vous en verrez encore d'autres. C'est comme ça que ça marche aussi dans la Bible, d'ailleurs. Mais je pense que nous avons une image assez riche pour comprendre que l'ombre de l'esclavage est sans espoir, sans liberté et sous un oppresseur sans cœur. Sans espoir, sans liberté et sous un oppresseur sans cœur. Passons maintenant à l'ombre de l'agneau, qui est la figure centrale de la délivrance de l'esclavage. Il y a eu des manifestations de la puissance de Dieu. Vous pouvez lire les 10 plaies d'Égypte. Mais ce qui a déclenché le départ des esclaves, et même de la demande de l'oppresseur pour qu'ils partent, c'est ce qui se passait en lien avec l'agneau. Un agneau qui a ses caractéristiques nous aide à voir donc son ombre. C'est un agneau sans défaut qui devait être choisi. Un agneau sans défaut. Voilà un contour qu'on voit dans cette ombre. Un autre contour, c'est un agneau qui entrait dans la famille quelques jours avant pour en faire partie, pour devenir membre, avoir quelque part ensuite un rôle de représentant. Troisièmement, cet agneau qui était pris représente en fait tous les sacrifices de l'Ancien Testament. Ceux qui ont été faits avant, depuis Abel, Noé, Jacob, jusqu'à tous les sacrifices qui ont été faits, jusqu'à ce que la réalité que l'ombre nous faisait voir arrive. Quatrièmement, cet agneau protège du jugement et délivre de la mort. Le peuple d'Israël n'était pas meilleur que le peuple d'Égypte. Il n'était pas meilleur. Et donc pour que le premier-né ne meure pas, il fallait un sacrifice d'un agneau qui le protégeait du jugement et le délivrait de la mort. Et dernier contour que l'on voit ensemble, cet agneau est une nourriture pour le voyage. Il est une nourriture pour le voyage qui commence le lendemain vers la liberté. On peut continuer cette description de l'ombre, bien entendu. Mais nous voyons déjà que l'ombre de l'agneau nous parle d'un sacrifice sans défaut, qui représente quelqu'un, qui protège du jugement, qui délivre de la mort et est la nourriture vers la liberté. Si l'agneau est central et décisif dans la libération, nous pouvons aussi réfléchir à la forme de la libération. Cette ombre présentée dans l'Ancien Testament est répétée chaque année par ceux qui vivent la Pâque juive. Notre troisième ombre que l'on va voir long, la forme de la libération. Regardons quelques formes de l'ombre de la libération. Premier élément qu'on voit quand on regarde le contour, c'est que le peuple sort du pays sous la domination de l'oppresseur. Il change de lieu. Deuxièmement, le peuple part avec un grand trésor de ce pays qu'on leur donne en les pressant de partir. Troisièmement, le peuple poursuivi par ses ennemis, vous vous rappelez la mer rouge là qui s'ouvre, il traverse, etc. Poursuivi par ses ennemis, les voit engloutis après avoir passé la mer. Troisièmement, le peuple est libéré pour un objectif clair. Vous savez pourquoi le peuple a été libéré d'Égypte? C'était pour aller adorer Dieu. Le but était très clair, c'était pour aller adorer Dieu. Et dernier élément de la forme de l'ombre, c'est que le peuple a reçu la promesse d'un pays où il connaîtrait le repos. Alors ces quelques contours nous permettent de comprendre les formes de l'ombre de la libération qui comprend donc la sortie de l'oppression, les besoins pourvus, la protection dans le but d'adorer ayant reçu la promesse d'un pays. Donc l'ombre de la libération comprend la sortie de l'oppression, les besoins pourvus, la protection, dans le but d'adorer, ayant reçu la promesse d'un pays. Voilà quelques éléments d'ombre que je voulais voir avec vous de l'Ancien Testament. L'ombre de l'esclavage, sans espoir, sans liberté, sous un oppresseur sans cœur. L'ombre de l'agneau, un sacrifice sans défaut, qui représente quelqu'un, protège du jugement, délivre de la mort et est la nourriture vers la liberté. Et l'ombre de la libération, la sortie de l'oppression, les besoins pourvus, la protection dans le but d'adorer, ayant reçu la promesse d'un pays. Or n'oublions jamais que l'ombre ne nous donne que des indications sur l'objet éclairé et ne nous permettra jamais de voir l'objet lui-même sans nous tourner vers lui directement et le regarder quand il est éclairé. Rappelons-nous aussi que les réalités présentées dans le Nouveau Testament sont des réalités spirituelles. Ce qui signifie en passant que nous n'avons pas à vivre comme l'ombre, mais dans la réalité. Nous arrivons donc au troisième point, la lumière de Pâques du Nouveau Testament. Alors voici ce que dit Colossiens 2, 16 et 17. « Ainsi donc que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez, buvez, ou pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat, tout cela n'est que l'ombre des choses à venir. Mais la réalité est celle du Christ. » La réalité est celle du Christ. Peut-être ça rappelle les « en Christ » dans Éphésiens, pour ceux qui ont fait l'étude. L'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. La réalité est celle de Christ. Dans 1 Corinthiens 5, et ça nous concerne aujourd'hui à Pâques, il est dit « Purifiez-vous du vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. » Car, écoutez bien ici, Christ est notre Pâques. Christ est notre Pâques. Christ, notre Pâques, a été immolé. Voyons donc maintenant la réalité des trois ombres que nous avons parlé au point précédent. Je vais maintenant vous montrer qu'est-ce que cette ombre nous montre dans la réalité. La réalité de l'esclavage qui a amené la Pâques du Nouveau Testament, la réalité de l'agneau qui est la figure centrale de la Pâques du Nouveau Testament, et la réalité de la libération d'un peuple qui est le résultat de la Pâques du Nouveau Testament. Alors premièrement, la réalité de l'esclavage qui a mené à la Pâques du Nouveau Testament. En fait, toute la Bible nous parle de l'esclavage spirituel dans lequel tout homme est enchaîné depuis sa naissance, car il naît dedans. C'est le péché. C'est le péché. Et le péché, c'est quoi? C'est toutes les actions, les paroles, les pensées, les attitudes qui ne correspondent pas à ce qui est bien et bon selon Dieu. Autrement dit, celui qui va contre la loi de Dieu pêche. Donc l'esclavage du péché est, on va voir la réalité de ce que l'ombre avait annoncé. L'esclavage du péché est sans espoir. Il est sans espoir cet esclavage. Si du temps de l'esclavage en Égypte c'était un oppresseur humain qui pouvait être renversé par un plus fort que lui, nous sommes oppressés par ce qui est plus grand et qu'aucun homme n'est plus grand que le péché. Aucun homme. Si quelqu'un était plus grand que le péché, il n'en aurait jamais commis. L'esclavage du péché est totalement sans espoir. Qui pourrait en effacer un seul par lui-même? Deuxième élément qu'on avait vu dans l'ombre, maintenant c'est la réalité, cet esclavage est sans liberté et il submerge. Celui qui ment à sa maman pour cacher qu'il n'a pas fait ses devoirs ne sera pas libre de parler avec son père, ni avec sa prof. Le péché n'amène pas la liberté. Il amène l'oppression. Le péché enchaîne des relations tordues, malmenées ou même brisées. L'esclavage du péché est troisièmement sous un oppresseur sans cœur. Le péché mène toujours à la mort. Toujours. Il n'y a pas d'autre issue. Le péché mène toujours à la mort. Or, si l'ombre de l'esclavage qu'on voyait dans l'Ancien Testament était terrible, la réalité spirituelle du péché, qui a des conséquences bien réelles dans nos vies, est bien pire et malfaisant. Et si Jésus-Christ a été crucifié 3 jours avant la Pâque, ce n'est pas pour rien. Il est venu payer le prix pour libérer de l'esclavage du péché. Un terrible esclavage que nous devons reconnaître pour en être libérés. Bien des Hébreux ne se rendaient même pas compte de leur esclavage. C'était normal, ils étaient nés comme ça. Ils avaient besoin de reconnaître leur état d'esclavage pour sortir d'Égypte. Or ça, c'est une question que je nous pose maintenant. Avez-vous déjà été rendu conscient de votre péché? Savez-vous que sans la libération de Jésus-Christ, vous êtes esclaves du péché? Que vous soyez d'accord ou non, c'est une réalité décrite dans la Bible. Regardons maintenant la réalité de l'agneau, la bonne nouvelle on pourrait dire. La réalité de l'agneau qui est la figure centrale de la Pâque. Jésus-Christ est l'agneau. C'est lui, si vous voulez, c'est Jésus et toute son œuvre qui projetait une ombre. Et on a vu des contours dans l'Ancien Testament, sur l'agneau pascal et tous les sacrifices sanglants de l'Ancien Testament. Jésus a vécu une vie parfaite, sans défaut. Il n'est pas esclave du péché. Il ne l'a jamais commis. Jésus, deuxièmement, est venu vivre parmi nous il y a 2000 ans. Nous sommes en 2022 après Jésus-Christ. Il est venu, en vrai. Il est devenu l'un des nôtres. Il peut ainsi nous représenter. Troisièmement, Jésus-Christ est comme un paratonnerre. Il a pris la foudre du jugement de Dieu que nous méritions sur la croix. La croix s'est fait forme, si vous voulez, de paratonnerre. Au lieu de tomber sur nous, le jugement tombe sur lui et il paye sur la croix. Jésus nous fait entrer dans un royaume spirituel. Il nous fait entrer dans un royaume spirituel qu'il manifestera physiquement lors de son retour. Et dans ce royaume spirituel, il n'y a plus de mort. Voilà pourquoi le Nouveau Testament peut dire que nous recevons la vie éternelle. Il n'y a plus de mort dans ce royaume. Et dernier élément, Jésus-Christ est notre nourriture. On a vu aussi l'ombre de la nourriture, mais Jésus-Christ est notre nourriture, dans le sens que Jésus nous donne la voie à suivre pour vivre selon le royaume dans lequel il nous a placés, après nous avoir délivrés du péché. Jésus a dit lui-même que sa nourriture, c'était de faire la volonté de son Père. Eh bien, notre nourriture, c'est de suivre Jésus-Christ. Alors si l'ombre de l'esclavage nous montrait une réalité bien pire, l'ombre de l'agneau nous montre une réalité bien meilleure. Plus besoin de nouveaux sacrifices. Plus besoin, puisque le sacrifice réel, dont l'ombre était projetée dans l'Ancien Testament, a été fait une fois. Pâques est le moment de réfléchir à ce que nous croyons. Jésus est-il vraiment mort et ressuscité? Si nous le saisissons par la foi, tout ce que ça signifie pour nous, nous allons pouvoir vivre la réalité de la libération. Et c'est justement le dernier élément ici, dans ce point, la réalité de la libération d'un peuple qui est le résultat de la Pâque du Nouveau Testament. Donc la libération spirituelle du Nouveau Testament projetait une ombre dans l'Ancien Testament. Quelle est cette réalité? Nous allons la voir maintenant. Eh bien, cette réalité, cette liberté nous fait sortir de l'oppression. Nous passons d'un royaume spirituel à l'autre, du royaume du péché à celui de la justice, du royaume de Satan à celui de Jésus-Christ. Cette liberté nous donne tout ce dont nous avons besoin pour vivre notre vie de foi. Tout. Regardez dans 1 Pierre. On reçoit tout ce dont on a besoin en Jésus-Christ. Il nous fait passer par la mer. Oh, ça c'est une ombre. En fait, vous pouvez dire actuellement, c'est le baptême. Pour voir ensuite les cadavres d'ennemis qui ne peuvent pas suivre ce chemin de confession publique. La liberté nous donne aussi le désir d'adorer notre Rédempteur, d'admirer notre Sauveur. C'est extraordinaire ce que Jésus a fait. Il nous libère. Et il nous donne la promesse d'une patrie céleste où le Seigneur nous prépare une place. Et là, je ne fais que parler de ce que l'ombre a pu nous permettre d'entrevoir un peu. La réalité est bien plus grande encore. Elle contient une liberté de vie, une joie inexplicable, une conscience complètement purifiée, une paix que personne ne peut enlever, une identité claire, profonde, sans ambiguïté, et tant d'autres choses. La libération dans le Nouveau Testament, c'est toutes les conséquences de l'Évangile. Méditez un peu sur les conséquences de l'Évangile. Toutes ces conséquences de l'Évangile, la libération, mais être libéré de l'esclavage du péché. C'est juste extraordinaire. Quand on demande pardon, que Dieu nous pardonne, il nous dit, mais si Satan vient vers notre porte, il dit, Tim, t'es en train de pécher là. Puis tous ces péchés que t'as fait toute ta vie, qu'est-ce que je peux lui répondre? Je dis, oui, t'as raison, je pêche. Mais Christ a payé pour moi. Et en plus, il me permet de cheminer et de progresser. Et si toi, tu veux m'enfoncer, en fait, le Seigneur, lui, veut m'encourager à cheminer avec lui. L'ombre de la libération montrait déjà un espoir. Dans l'ombre de la libération, ça montrait un espoir. La réalité du Nouveau Testament est sans fin, d'une profondeur insoupçonnable pour celui qui la connaît. Non, plutôt insoupçonnable pour celui qui ne la connaît pas. Et rassemblant tous ceux qui sont en Christ dans un royaume éternel. Donc l'ombre de la réalité, l'ombre de la libération, c'est l'ombre. Hein. L'ombre de la libération montrait déjà un espoir. L'ombre montrait un espoir. La réalité du Nouveau Testament est sans fin, d'une profondeur insoupçonnable pour celui qui ne la connaît pas, et rassemblant tous ceux qui sont en Christ dans un royaume éternel. Nous avons parlé d'ombre ce matin. Alors lorsque vous vous promènerez par un jour ensoleillé, et que vous verrez votre ombre, ou l'ombre de quelqu'un, ou l'ombre d'un objet, pensez à ce que l'Ancien Testament est l'ombre des réalités spirituelles du Nouveau Testament. Nous avons vu ce matin que la Pâque de l'Ancien Testament, qui est la fête de la libération de l'esclavage en Égypte, est l'ombre d'une réalité qui a été manifestée par la mort et la résurrection de Jésus à la Pâque du Nouveau Testament. Si vous avez bien compris, chacun, s'il veut être libéré de l'esclavage du péché, doit reconnaître sa situation, se tourner vers celui qui a payé le prix fort et qui a été accepté pour être libéré. Et la quittance de cette transaction, c'est la résurrection, c'est la quittance, c'est payé, il est vivant. Voilà pourquoi Pâques est une fête si importante et joyeuse. La quittance de la transaction de ce que Christ a payé pour nous libérer de l'esclavage du péché est acquittée. Et la résurrection en est sa quittance. Christ est notre Pâques. Christ est notre Pâques. Et j'aimerais que nous nous souvenions de ça. Et c'est avec ceci que j'aimerais vous souhaiter joyeuse Pâques à tout le monde et que vous puissiez vivre les réalités qui étaient annoncées par les ombres de l'Ancien Testament aujourd'hui même par la grâce de Dieu. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous sommes éblouis de voir tout ce que tu as mis en place dans toute l'histoire de l'humanité pour sauver un peuple. Nous le voyons lors de la sortie d'Égypte où tu as agi de manière tellement puissante que même le pharaon, la plus puissante armée de l'époque, en fait a demandé à ce peuple de partir, l'a même chassé, l'a permis d'être libéré de cet esclavage. Et tu as même effacé tous ceux qui voulaient faire revenir dans l'esclavage. Seigneur, merci parce que déjà même toutes ces ombres sont déjà tellement extraordinaires. Nous pousse à déjà être heureux de voir que c'est ça, c'est cette direction que prend ton œuvre. Et nous voulons, Seigneur, nous réjouir parce que c'était une ombre. Et il y a la réalité qui est Jésus-Christ qui est venu, qui a payé pour que nous puissions être purifiés, lavés réellement. Ce n'est pas juste sortir d'Égypte un jour puis ensuite se retrouver de nouveau dans l'esclavage, non. C'est être réellement lavé. Et lorsque nous péchons parce que nous sommes un corps de chair dans ce monde déchu, eh bien nous ne sommes plus dans la situation où le péché a une puissance sur nous, en disant « voilà, tu fais partie des miens ». Non, nous ne sommes plus, Seigneur, des esclaves. Nous sommes des combattants qui combattent le péché, qui veulent grandir, c'est vrai, et qui se réjouissent parce que tu as tout payé pour que nous puissions vraiment être pardonnés. J'aimerais te prier que nous puissions saisir cette notion, que nous puissions saisir cette notion de l'ombre et de la réalité, parce que cette notion est tellement importante tout au long de la Bible, pour toutes sortes de sujets, afin que nous puissions être vraiment des personnes libres, heureuses, de savoir que tu es notre Dieu vivant, et que nous avons un pays aussi que tu nous prépares, et qu'en attendant, tu es avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.